Previously.
Il binge-watchait déjà avant que ce soit cool. Alain Carazé revient pour vous sur des séries cultes.
Au menu aujourd'hui, on déjeune avec les Sopranos. Et donc là, le terme de menu est totalement approprié. Retrouvez-moi tous les mercredis dans Previously, le podcast de Télé-Loisirs, pour plonger dans une série phare que non seulement je vous raconte, mais dont je vous livre aussi des coulisses. Nous allons entamer pour ce 87e Previously un voyage essentiel et approfondi dans la série qui a changé les séries. Dans la série qui a redéfini le champ des possibles pour la narration télévisuelle. Rien que ça. Et d'abord, comme je vous l'ai promis, je vous amène au restaurant. Allez, on va déjeuner. Allez, installez-vous bien. Ça va, vous êtes bien là? Bon, allez, on va commander. Moi, je vous recommande leur ziti. Ce sont des sortes de spaghettis, mais typiques de la Campanie en Italie. C'est super bon, surtout avec du parmesan. Hein. Bon, allez, à la vôtre. Et là, vous dites que ce que je viens de vous raconter, vous l'avez déjà entendu des dizaines de fois. L'œuvre qui a été fondatrice, celle à qui tout le monde fait référence, le point dans l'histoire qui sépare l'avant de l'après. Donc, mon discours, hein, il fait plus penser à un message marketing en provenance d'une plateforme de streaming qu'à une analyse d'experts basée sur des faits. Eh ben non! Avant les Sopranos, faire une série aux États-Unis signifiait qu'il fallait se conformer au genre fédérateur et aux contraintes de diffusion. Alors bien sûr, vous vouliez innover, les moderniser, les transformer, et la production regorge de chefs-d'œuvre et de séries qui, au fil des décennies, ont été des créations cultes et marquantes. Je vous en parle suffisamment ici. Mais comme tous les diffuseurs étaient des chaînes privées, il fallait obligatoirement assurer une bonne audience chaque semaine, de façon constante. Et vous deviez écrire des épisodes en acte, pour tenir compte des pages publicitaires. Pas mine de rien, c'était devenu un format d'écriture. Le teaser, acte 1, 2, 3, 4, et puis l'épilogue. Avec une montée dramatique d'acte en acte et un petit suspense, un petit cliffhanger avant chaque page de pub. Et puis, en 1972, un certain Charles Dolan inventa le concept de la chaîne câblée dite Premium. Pour un abonnement mensuel, vous avez le droit à des programmes que l'on ne voit pas ailleurs, comme des films en toute première diffusion ou des rencontres sportives. Et le tout sans publicité, puisque le financement de tout ça est assuré par un abonnement. C'est clair. Au départ, cela devait s'appeler The Green Channel, puis Home Box Office, et enfin c'est devenu HBO. Cinq ans après son lancement, la chaîne compte 1 million d'abonnés et devient bénéficiaire. Donc, dès 1983, elle commence à produire ses propres téléfilms, puis des comédies et des séries anthologiques, avec chaque épisode, par exemple des Contes de la Crypte, qui représente un petit unitaire qui peut s'insérer entre deux longs métrages. Car les films en avant-première et les matchs de boxe restent quand même les valeurs primordiales, les valeurs piliers de HBO. Ni Oz, la première série régulière dramatique d'une heure, ni Sex and the City, la comédie dramatique impertinente qui a déjà été explorée dans un Previously, ne changeront cela. Même si leur sujet et leur qualité n'est pas en cause, elles n'auront que très peu d'impact et ne feront pas bouger les choses, ni dans la chaîne, ni dans le paysage audiovisuel américain de l'époque. Par contre, tout changea quand, en janvier 1999, HBO lança sa toute nouvelle série dramatique, dont le pilote avait été tourné durant l'été 97. Et luxe incroyable à la télévision américaine de l'époque, la première saison de 13 épisodes était déjà entièrement produite. La série s'appelait Les Sopranos, et HBO voulait en changer le titre pour Family Man. Son budget était de 2 millions de dollars par épisode, le plus élevé pour une première année de toute l'histoire de la télévision, affirmait Chris Albrecht, le président des programmes originaux de HBO. Ce à quoi, il faut prendre en compte quand même que, sans publicité, les épisodes sont plus longs. Ben plus longs de 10 à 15 minutes. Donc plus d'écriture, plus de temps de tournage, plus de montage et plus d'argent. Mais plus prosaïquement, ce budget élevé, dans ce cas précis, était dû à la volonté de tourner la série, non pas dans des studios de Los Angeles, mais à New York et dans le New Jersey. Et à son crédit, Chris Albrecht avait totalement compris que la vision narrative du créateur de la série faisait du New Jersey un personnage intégral de la série et qu'il était difficile de faire autrement. Le soir du lancement de la série, « le ciel est tombé sur notre tête », raconte un des membres de l'équipe. La série était effectivement un succès instantané, avec des critiques dithyrambiques. « Peut-être la plus grande création de la culture populaire américaine de ce dernier quart de siècle », lance le New York Times. « Un chef-d'œuvre de la pop culture qui fait jeu égal avec les films du Parrain, Les Affranchis ou même Le Guépard de Visconti, pour Vanity Fair ». Quasi instantanément, la série fait la couverture des magazines qui y vont de leur enquête sur cette production hors norme. Entertainment Weekly, TV Guide, Vanity Fair. Crystal Brecht, le responsable de HBO, raconte que, auparavant, personne ne faisait attention à ce que l'on diffusait. Là, en quelques semaines, on avait droit à notre parodie dans le Saturday Night Live. La série contribue à faire sortir toutes les autres séries premium, comme Sex and the City ou la prochaine Six Feet Under, de leur invisibilité médiatique et d'en faire des rendez-vous incontournables, le buzz permanent, les séries qu'il faut regarder, même si on ne regarde pas la télé. HBO devient la Rolls-Royce des séries, et ce qui était anecdotique il y a encore 2 ans, devient un nouveau pilier de son développement, une motivation pour l'abonnement. La série obtient 16 nominations aux Emmy Awards dès sa première saison, dont celle de la meilleure série dramatique. Les audiences aussi sont absolument phénoménales. Elles commencent à 3 400 000 téléspectateurs, ce qui est un record pour un programme sur une chaîne de télé payante, puis 5 220 000, puis 7 600 000, 9 millions, enfin ça ne s'arrête plus. Si on compte les multiples diffusions, le début de la saison 3 va jusqu'à atteindre 22 600 000 téléspectateurs. On dépasse les audiences des chaînes de télé gratuites avec les productions diffusées le même jour à la même heure. Donc oui, Soprano a marqué un moment important dans le monde des séries, en imposant les séries premium comme une alternative à succès et donc en forçant tous les autres à remonter le niveau d'excellence pour ne pas trop creuser le fossé entre deux types de spectateurs. En cela, elle a ouvert la voie à la création de toutes les autres séries pour des diffuseurs payants, de Dexter à House of Cards, de Game of Thrones à WandaVision. Mais Soprano a aussi été le moment pivot pour la narration sérielle. La série qui a démontré qu'une autre manière d'écrire les séries était possible, sur d'autres sujets, avec d'autres thèmes. Non seulement la série parle d'une crise existentielle et de conflits psychologiques qui amènent le héros à faire des crises d'anxiété et de voir une psy, uniquement parce qu'il a perdu connaissance quand des canards se sont envolés de sa piscine, mais ça parle aussi du tiraillement entre les deux familles, aussi stressantes l'une que l'autre, le tout enrobé du spectre du crime organisé, des bandes mafieuses, du crime et de la violence. Alors que la série ne montre quasiment jamais de fusillade, ni même de règlement de compte. Le tout sans se reposer sur le fameux découpage en actes dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ben là, il est inutile sur une chaîne sans publicité. Donc avec une narration complètement différente dans tous ses aspects, de son rythme à sa construction d'épisodes. Le dialogue peut maintenant céder la place à de la contemplation, à des regards, à des silences. Après les Sopranos, tous les scénaristes, tous les producteurs et toutes les chaînes du monde se sont dit que lancer des séries plus clivantes, plus segmentantes, plus innovantes était peut-être l'avenir de la fiction télé. Voilà déjà pour la place que tient les Sopranos dans l'histoire de la série. Hein, franchement, elle est cruciale. Ah, mais tiens, voilà nos invités qui arrivent. Tony Soprano, Carmela Soprano, Christopher Moisanti, Oncle Junior. Ah ben, il y a même le monsieur qui les a créés. En fait, je ne vous ai pas dit, nous sommes en avril 2000. Ben oui, c'est pour ça qu'on peut aller au restaurant, hein. C'est une bonne blague. C'est la 200e de l'émission de Canal Jimmy Destination Série. Et ça tombe bien, l'équipe des Sopranos fait une tournée promotionnelle mondiale. Donc, après la Grande-Bretagne, ils sont arrivés à Paris très tranquillement, via la gare du Nord, sans garde du corps, ni foule hystérique. Avec Hugh Fletcher, le producteur de l'émission, et Philippe Appieto, le réalisateur, on les a donc conviés à table, dans ce grand restaurant, le Il Cortile, un lieu plus convivial qu'un studio télé, histoire de réunir la famille autour de la table. Donc, on va pouvoir bavarder un peu avec Michael Imperioli, qui tient le rôle de Christopher, Idi Falco, qui est Carmela, Dominique Tianese, qui est Oncle Junior, et James Gandolfini, Tony Soprano. Mais surtout, avec le brillant créateur de la série, David Chase. On va donc leur demander quand ils se sont rendus compte de tout le bazar que la série faisait aux États-Unis et sur HBO. C'est Dominique Tianis qui se lance.
C'est quand ma mère m'a téléphoné. Je t'ai vu dans la série, c'est formidable. Tu dis trop de gros mots, mais c'est une très bonne série.
Elle ne l'avait jamais fait avant.
Elle a 93 ans. Et ensuite, elle m'a dit, bon, ne le répétez pas. Moi aussi, j'aimerais apparaître dans la série. Ouais, faisons l'avenir.
On en parle.
C'est donc grâce à ma famille. C'est génial.
On ne sait pas trop. Mes parents ont aussi regardé le pilote de la série. Et leur réaction a été assez incroyable. C'était vraiment quelque chose. Je n'ai pas leur objectivité, alors je me suis fié à eux. Et depuis, ça fait boule de neige.
Quand avez-vous eu pour la première fois le sentiment que quelque chose se passait? Que c'était bien plus qu'une série télé, mais un phénomène?
Quand j'ai reçu des coups de fil d'ex-copines, quand des gens perdus de vue depuis longtemps m'ont rappelé, ça m'a fait réfléchir. Il se passe quoi, là? J'ai compris que l'on touchait pas mal de monde. Des amis du lycée, des gens que je n'avais pas vus depuis longtemps m'ont recontacté à cause de la série. C'était bizarre, mais c'était bien. C'était positif.
Pour moi, c'est en lisant les critiques quand la diffusion a commencé. Et ce qui m'a frappé, c'est que le public captait le truc. Les gens comprenaient où on voulait en venir. Que ce n'était pas qu'une histoire de violence et de mafia. Ils ont saisi la complexité de la série de la même façon que nous. De la même manière qu'on la voyait. Et ils l'ont aimé de la même façon que nous. Les journalistes, bon, on respecte leur opinion. Ils ont analysé la série en comprenant toutes les subtilités. Ça nous a surpris que les gens pichent tout de suite.
David, pour vous, quel a été le signe?
Hier, quand on est arrivé en France.
Dès qu'on s'est su sorti d'affaires.
Hier, en arrivant en France, je me suis dit, vous savez quoi, ça va le faire. On s'en est rendu compte? C'est difficile à expliquer. HBO organise deux types de fêtes. Il y a des petites fêtes pour la famille et l'équipe, et il y a aussi la grosse fête. J'ai appris qu'il allait avoir une fête. Super, on va faire la fête. Puis j'ai appris que c'était une petite fête. Bon, je m'en fichais un peu. Puis j'ai entendu qu'on allait aussi faire une grande fête. Là, j'ai compris que quelque chose se passait. J'ai compris que HBO allait nous présenter à toute la presse. C'était en janvier. Il y a eu une grosse projection, puis un restaurant à Manhattan. Et là, j'ai su qu'il se passait quelque chose. Et aussi, durant la fête, ils ont montré deux épisodes qui ont eu un succès bien plus important que je ne pouvais le supposer. Je me suis dit, oh la vache, on nous aime bien. Le parrain des Sopranos, c'est lui. Un scénariste un peu au bout du rouleau et désespéré, David Chase avait déjà écrit et réalisé beaucoup de séries, et pas des plus banales. The Record Files, $200 plus les frais, avec le débonnaire détective privé incarné par James Gardner. Et puis, il a aussi écrit les enquêtes surnaturelles d'un journaliste nihiliste confronté à des créatures incroyables.
David, vous avez écrit pour une ancienne série fantastique qui est devenue culte maintenant, Kolchak, les dossiers brûlants.
Ça fait un moment que je ne l'ai pas vu.
J'adorais cette série.
Ouais, c'était une série géniale.
Pour moi, ce que je n'oublierai jamais, c'est la folie ambiante du tournage. La star dans le bureau du producteur. Le producteur qui a dû faire intervenir la sécurité. C'était vraiment de la folie. Donc je me souviens plus de ça que des épisodes.
Puis vous avez écrit pour Les Ailes du Destin, une série superbe, très émouvante.
D'une certaine manière, c'est à cette occasion que je me suis dit, faire de la qualité, ben, ils s'en fichent. Alors laissons tomber. Si une série méritait, pas simplement parce que le sujet est noble, hein, elle traitait d'un sujet très important, le racisme. Mais surtout, toute l'équipe, Sam Waterston, Regina Taylor, toute l'équipe était géniale. La déprogrammation de cette série m'a fait perdre espoir. Ça m'a mis en colère. Et si vous faisiez une version télé du Parrain, lui dit un jour son producteur, alors que Chase venait de se prendre un nouveau refus et un nouvel échec. Le conseiller en question, c'est un certain Lloyd Brown. Et ce nom vous dit sans doute quelque chose. Allez, faites un effort. Bon, je vais vous donner un indice. Ouais, voilà. C'est l'homme qui est responsable du développement auprès du network ABC des années plus tard à l'idée de Lost et a confié le projet à J.J. Abrams. C'est une histoire sensationnelle que je vous conseille d'écouter dans un précédent Previously.
Ouais, Cliff Giovanni, anche tu, GMB, sei tutto un bravo coglione. E per questo motivo voglio dare la possibilità di entrare a far parte della famiglia di Cosa Nostra.
David Chase va balayer l'idée du Parrain, format série télé, d'un revers de la main. Jusqu'au moment où il y aura une conjonction d'éléments. Alors tout d'abord un projet refusé, où Marg Allenberger, ouais, la future star des experts, devait être la femme d'un gangster devenu témoin protégé par le FBI et vivant de façon anonyme dans le New Jersey. Il y a le New Jersey, le Nirvana pour un Américain d'origine italienne, là où Chase a ses meilleurs souvenirs, parce que le vrai nom de Chase, c'est Di Cesare, typiquement italien. Il y a sa mère, qui est morte en 1992, mais qui était une emmerdeuse absolue. Ce sont ses termes. Et puis, il y a la psychanalyse que Chase avait depuis qu'il a la trentaine. Avec un père méprisant, il en avait grandement besoin. Et là, ce projet de Parrain version télé devient la mère d'un mafieux, son fils Tommy aux commandes, la mère va le faire tuer, à moins qu'il ne la mette à l'hospice. Bon, une création très personnelle que Chase enrobe donc sous l'apparence d'une saga mafieuse, ce qu'elle n'est pas en vérité.
I wish the Lord would take me now.
I think it's time for you to start to seriously consider salads.
There has to be consequences.
And there will be. I hear you, okay? Let's just not overplay our hand, because if she finds out we're powerless, we're fucked.
Federal marshals are so far up my ass, I can taste blue cream.
What is that?
Chicken soup for the soul.
Should be tomato sauce for your ass. It's the Italian version.
Do you think making hamburger out of me would make you feel better?
Mother of Christ, is this a woman thing? You ask me how I'm feeling. I tell you how I'm feeling. And now you're gonna torture me with it.
Leave the fucking cheese there, all right? I love fucking cheese at my feet. I stick motherfucking provolone in my socks at night so they smell like your sister's crotch in the morning.
D'avoir la famille Soprano devant nous, c'est vraiment quelque chose, parce que pour nous, c'est plus une histoire de famille qu'une histoire de mafia. J'ai raison ? Pour beaucoup de gens, c'est un sujet plus intéressant que la vie d'un plombier dans la banlieue de Chicago. Tout cela parce que les films nous font croire que les mafiosi ont des vies trépidantes. Mais en fait, les vrais mafios s'ennuient pas mal. Mais de toute évidence, on peut toujours injecter des problèmes avec de gros enjeux. Leur vie de famille est en réalité très traditionnelle.
Je voudrais ajouter que dans une pièce de théâtre, et on a tous été formés au théâtre, quand on accepte un rôle, on ne tergiverse pas. On joue. J'ai l'impression là de jouer une pièce. Le scénario se déroulerait encore et encore, mais pour moi, c'était une pièce de théâtre. Et j'ai l'impression de jouer une pièce, et ça me plaît, parce que c'est ma formation. Et le fait que je joue le rôle d'un mafieux, oncle junior, j'ai joué du Shakespeare, j'ai joué un clochard, un clown, et c'est pareil. Et ça apporte du réalisme à la série. À propos de théâtre, tu le dis, on a tous cette expérience. Et je pense, du moins j'espère, qu'en voyant ces comédiens-là, les scénaristes ne craignent pas d'écrire des choses que Michael, Eddie ou Dominique ne pourraient pas jouer. Donc, et j'espère que c'est vrai, quoi qu'on écrive pour eux, on sait qu'ils vont assurer. On n'a pas à se soucier de leurs limites, qu'ils ne pourront pas faire ceci ou cela. On les met en situation et on regarde faire. Moi, je les regarde.
Il a tout à fait raison. Quand on parle de Cunnilingus avec Oncle Junior, on s'est dit, une série sur la mafia qui parle de Cunnilingus, quel est le rapport ? Et pourtant, en tant que scénariste, on sait une chose, c'est que le résultat sera réaliste. On ne se demande pas comment vont-ils y arriver. Ça ne nous traverse même pas l'esprit. Chase espérait se lancer dans un long métrage. Et en attendant, il proposait ce projet de série à toutes les chaînes. De Fox, qui en a financé l'écriture au niveau du pilote, à CBS, avant que HBO ne se décide à se lancer dans un pilote. Et c'était deux jours avant que David Chase, au bout du rouleau, accepte de devenir le showrunner de la série créée par Chris Carter, Millennium. Ce n'est pas pour autant une partie de plaisir. En plus de l'opiniâtreté de Chase, intraitable quand on lui demande de changer le titre, il y a aussi la question de faire une série reposant sur un criminel mafieux. Qu'accepter que Chase réalise aussi le pilote, bon, c'est pas évident parce que c'est pas un réalisateur à la base, et qu'on le laisse tourner sur les lieux mêmes et pas dans un studio d'Hollywood. Je crois qu'il y a une attitude dans le New Jersey. Il y a un état d'esprit du New Jersey. Mais tout ce que l'on pourrait dire serait vraiment très schématique. Mais je trouve que les gens de New Jersey sont intelligents. Encore une fois, bon, je simplifie ici, mais on ne les berne pas facilement. Ils ont tout vu. Ce n'est pas New York. Ils n'ont pas le côté new-yorkais. Mais ils ont vu les mêmes choses, et ils en ont l'habitude.
Ils ont les valeurs de la classe moyenne. Mais comme ils sont proches de New York, ils ont aussi le reste. Il se passe pas mal de choses. C'est un endroit bien.
Le pilote de la série fut tourné donc en octobre 1997 et en 15 jours. Chris Albrecht donna son feu vert pour une première saison sur la base de ce pilote proprement exceptionnel. Tony Soprano, ouais, entre-temps, son prénom a changé. De Tommy, c'est devenu Tony. Il est parrain de la mafia dans le New Jersey. Il a une belle villa à North Caldwell. Il descend tous les matins en peignoir de bain, un peu dans le cirage, pour récupérer son quotidien, le Star Ledger. Car la mafia n'est plus tellement aussi prestigieuse qu'elle ne l'était. On est loin du parrain et des fastes que l'on voit dans le film. Même si Tony Soprano n'est pas pauvre, son business n'est pas aussi florissant qu'à l'époque de ses parents.
C'est un type qui, dans sa tête, fait toujours des choses bien. Mais il parvient à foutre en l'air la vie de tout le monde. Il tente toujours de faire des choses bien, mais ce n'est jamais la bonne chose à faire. Comme de faire exploser le restaurant de son ami pour empêcher une fusillade. Personne ne penserait comme ça. Il pense vraiment bien faire, mais à la place, cela impacte tout et la vie de tous.
Harcelé par ses deux familles, la vraie et celle de la mafia, il fait des crises d'anxiété. Et en secret, pour ne pas perdre sa crédibilité auprès de ses autres collègues gangsters, il va consulter une psy, le docteur Jennifer Melfi, incarnée par Lorraine Bracco. Meadow, sa fille, est très intelligente. Elle est maquée avec Jackie Jr., le fils d'un autre boss de la mafia. Elle sait très bien ce que fait son père, mais elle préfère ne pas le savoir. Grosso modo, elle vit dans le déni, quoi. Anthony, le fils, lui est, comment dire, pas très actif. Et puis, il y a sa femme, Carmela.
Je pense qu'il aime beaucoup sa femme. Que c'est elle qui est la vraie force de la famille et l'actrice, Eddie Falco, est juste formidable. Elle incarne parfaitement le rôle comme si j'en étais amoureux. C'est très étrange. Je veux dire, c'est quelqu'un de formidable. Et le rôle, lui, et sa femme vivent une grande relation. Je pense qu'en fait, sexuellement, je n'en suis pas certain, mais à part ça, tout va bien entre eux.
Le fils spirituel de Tony, c'est bien sûr Christopher Molisanto, qui rêve d'intégrer sa famille. The beast in me.
Vos personnages ne sont pas des gens gentils. Vous avez des défauts, vous n'êtes pas les héros types de la télévision traditionnelle, et en plus, vous n'êtes pas représentés comme des gens extraordinaires.
C'est un aspect qui me plaît. Je n'ai pas été engagé pour jouer un mec cool. Les héros, ça me barbe.
Ce genre de choses ne me touche pas non plus. On se retrouve à regarder à la télé des imitations, à la plastique parfaite, des reproductions de ce que sont les gens. Et le retour que j'en ai est que les gens y voient des gens où ils ne se reconnaissent pas. Physiquement, ce ne sont pas des stéréotypes des gens parfaits de la télévision. Ils ne sont pas forcément ni gentils, ni extraordinaires. Mais dans le cours d'une journée, On rencontre surtout des gens qui vivent leur vie, avec des succès, avec des échecs. Et la série traite de ça. Et les gens regardent en se disant, je la connais, j'ai déjà fait ça, mon mari a déjà dit ce genre de choses. Mais très vite dans cette première saison, c'est l'épisode « Collège » qui va clairement établir toutes les choses. Tony va étrangler de ses propres mains un informateur du FBI qu'il a croisé par hasard lors d'un voyage. Chris Albrecht, le patron de HBO, discute avec Chase pour qu'il ne montre pas cette scène qui détruirait, d'après lui, tout le personnage et l'empathie du public envers lui. Chase, lui, était persuadé du contraire. C'est justement si son mafieux ne tue personne que la série perd de sa crédibilité.
Il part pour montrer un collège à sa fille et il voit le mec qu'il doit tuer. Et il tente de mentir à sa fille en lui disant que tout va bien. Il se précipite, trouve sa victime et doit le tuer. Puis il retourne auprès de sa fille. Et c'est exactement de quoi parle la série. Deux mondes très séparés et comment ils se rencontrent.
Toujours dans cette première saison, le 9e épisode, Boca, repose sur la révélation que Uncle Junior aime faire des cunnilingus à sa maîtresse, Bobby. Une pratique qui est aussi honteuse dans la famille que de voir une psychiatre. Évidemment, Tony va utiliser cette révélation.
Je ne sais pas comment vous dire ça, mais un des épisodes est sur Dominique, qui aime, vous savez, faire des choses aux femmes. Je ne sais pas si je suis bien clair. Mais je veux dire, on voit un mec de 65 ans et l'épisode parle de ça. En le lisant, je me disais qu'on ne pourrait pas le faire. Et si. Mais vous voyez ce qui se passe un peu entre les mecs de cette autre série, là, Oz. Eh bien, c'est pareil. On fait ce genre de choses. C'est juste incroyable. Je me suis dit en le lisant, nom de Dieu. Mais tout repose sur l'écriture.
À la fin de la saison 1, le triomphe est absolu. Drôle, intelligent, révolutionnaire, puissant, superbe, épique, irrésistible sont les quelques-uns des qualificatifs qui parsèment les articles. Le diffuseur HBO prend une ampleur insoupçonnée en s'ouvrant définitivement aux séries exigeantes et en donnant la parole aux auteurs devenus showrunners. Et elle donne des idées à tous ses concurrents. Il n'y a que l'Académie des arts et sciences de la télévision qui ne sanctifie pas la série en ne lui donnant pas le prix de meilleure série de l'année. Il faudra attendre 2004 pour cela, ce qui fera d'elle la première série du câble à obtenir l'Emmy Award. Par contre, toujours plus prompte à récompenser l'originalité, la Hollywood Foreign Press va décerner des Golden Globes à la série, à Edie Falco, à Nancy Marchand et à James Gandolfini dès la saison 1.
And the winner is... The Sopranos!
En fin de saison 1, HBO propose à James Gandolfini une très grosse augmentation et le sécurise ainsi pour les saisons à venir. Un geste assez inhabituel de la part d'un diffuseur, mais qui a permis à James de se sentir plus confiant, lui qui était encore abasourdi devant l'impact de la série et la soudaine notoriété qu'il touche.
Le New York Times a écrit que Les Sopranos est la plus grande œuvre de la culture populaire américaine de ce dernier quart de siècle. Eh ben, qu'en pensez-vous ?
Ce n'est qu'une série télé. Ça me rend nerveux. Ouais, c'est une bonne série. La culture populaire, ça veut dire quoi ?
Ça veut dire que tu es plus grand que Prince. C'est ce que ça veut dire au sens propre.
Là, je transpire, plus grand que Prince.
En termes de reconnaissance, c'est ce que ça veut dire.
Prince est petit, de toute façon.
Les critiques ont l'importance qu'on veut bien leur donner. C'est avant tout nous-mêmes qu'on doit satisfaire. Quand on a tourné le pilote, on savait que le scénario était génial, que les acteurs étaient géniaux. Mais si on se laisse impressionner par tout ça, ben on est perdu. Se lancer dans la saison 2 avec tout cela sur la tête, avec tout ce qui a été dit sur la première saison, c'était partir perdant. En écrivant la série, j'avais un objectif. Je voulais foudroyer le monde de la télévision, dans ses aspects traditionnels. Je ne savais pas que j'y arriverais. Je pensais qu'on allait me rabaisser, me vilipender. C'est ce à quoi je m'attendais. Mais je tenais à faire cette série parce que j'aime la série, j'aime ses personnages. Mais j'avais dans l'idée de faire une satire de la télévision ordinaire, de balayer les idées reçues. Parce que moi, en tant que spectateur, je ne trouvais rien de très passionnant, de très profond à regarder. Le contenu des chaînes hertziennes est par nature très éloigné de ce que l'on fait. Ne serait-ce qu'à cause des contraintes de satisfaire les publicitaires qui les soutiennent financièrement. Elles doivent tenir compte de trop de publicitaires différents qui ont chacun leur propre groupe de consommateurs. Il y a trop de gens à satisfaire. Des séries comme les nôtres, qui traitent, outre la violence, de nombreux thèmes sociaux qui pourraient être considérés comme offensants dans un univers politiquement correct, sont trop risqués pour eux. Rien que les injures et les sujets, ça serait déjà interdit. Ce n'est pas dans leur nature. Cela dit, je pense que notre série et quelques autres qui passent aussi sur HBO vont permettre aux chaînes hertziennes de s'ouvrir. Peu après nous, il y a eu une autre série, mais qui n'a pas rencontré de succès. Elle s'appelait Action. Elle parlait du monde du show business. Je ne l'ai jamais regardé, mais il y avait plein de gros mots et ils les bipaient carrément. C'était une première. Ça donnait l'impression qu'ils nous talonnaient en nous disant « Tentons donc de ce truc-là, parce que le public semble plus ouvert à la nouveauté maintenant, et pas ce qu'ils regardent d'habitude. » Je pense que ce n'est que le tout début. Je pense qu'il va se passer davantage de choses. Pour moi, de voir Tony et sa famille, de le voir si vulnérable, charmant, puis de le voir tuer quelqu'un de sang-froid. Et on se dit, comment se fait-il que j'aime bien ce type? Et si on n'avait pas pu montrer cela ouvertement, si on avait dû suggérer ou arrondir les angles? C'est toute la série qui aurait perdu alors de son sens. En fin de saison 1, Tony découvre que c'est sa propre mère qui a mis un contrat sur sa tête et que c'est Oncle Junior qui le fait exécuter, ce contrat. En saison 2, Livia, sa mère donc, se retrouve exclue de la famille. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a dû faire face à un certain nombre de réalités. Il a terrorisé la psychiatre au point qu'elle a dû quitter la ville. Alors évidemment, il ne parle plus à sa mère depuis qu'elle avait tenté de le tuer. Sa relation avec son oncle est sur le déclin puisqu'il a participé à cela. De toute façon, maintenant, il est en prison. On a dû faire face à sa réalité pour conserver une réalité. Il nous fallait gérer cela, aussi douloureux que ça puisse être. Et l'exemple de Livia est excellent, car la mère a un rôle dans la saison 2, mais pas du tout comme dans la première. C'était un risque à prendre. On se disait qu'elle nous manquait. On la voulait dans la série. Mais le scénario ne le permettait pas. On s'est mis nous-mêmes dans une impasse. On ne peut pas prétendre que ce n'est pas arrivé. Et on ne pouvait pas rendre Tony complètement idiot en lui faisant dire « Ah bon, t'as tenté de me tuer, mais discutons-en, allons voir un psy. » Ça n'aurait pas marché. Que faire d'autre ? Arrive alors Janice, la sœur de Tony, incarnée par Aida Turturro. Elle va tenter d'ajouter du liant, ou du conflit, c'est selon, à la relation entre Tony et sa mère, la tueuse. Elle va commencer une relation avec Richie April, le frère de Jackie, qui lui est mort d'un cancer la saison dernière. Mais un jour, Richie va frapper Janice. Alors, d'un seul coup, elle va brandir une arme et l'éliminera d'une simple balle dans la tête. À croire que Janice est de qui tenir. Ou alors qu'on ne manque pas de respect avec un membre de la famille Soprano. Christopher, lui, a beau l'ambition d'être aux côtés de Tony, il est aussi très attiré par Hollywood. Il écrit un scénario de long métrage.
Michael, dans la série, votre personnage fait son mieux pour écrire un scénario de film. Et en réalité, vous êtes aussi un scénariste. Vous avez écrit un des épisodes de la deuxième saison. Vous avez écrit et produit un long métrage. Alors, c'est votre personnage ou c'est Michael ?
Le
fait que Christopher ait envie d'écrire
était dans le scénario du pilote avant mon arrivée.
Donc
il parle d'écrire un scénario pour Hollywood. Ça existait déjà, c'est juste une coïncidence.
Vraiment ?
Alors, pure coïncidence. Il y en a beaucoup dans la série. Dans le quatrième épisode de cette seconde saison, Commandatori, Tony emmène Christopher et Polly Walnuts à Naples. Il découvre que la vision qu'il a de la mafia ne correspond pas totalement à la réalité. La psychiatre, le docteur Melfi, se confie à un autre psychiatre, incarné par le grand Peter Bogdanovich. Et Christopher, lui, est entre la vie et la mort, car deux associés de Richie April ont cru bon, pour se distinguer, de le prendre pour cible. Un des collègues, on va les appeler comme ça, de Tony, Big Pussy, réapparaît sans donner le moindre détail sur sa disparition. Et lors d'un rêve, Tony découvre, enfin, manière de dire, que Big Pussy est devenu un informateur pour le FBI. Il finira donc par dormir avec les poissons. Ce qui signifie, dans le langage de la série, qu'il sera abattu par Polly Walnuts. C'est vraiment une chose affreuse. Tous les scénaristes sont à l'agonie face à cela. Et pourtant, c'est une série sur la mafia, donc quelqu'un va se faire buter.
Et c'est très dur.
Mais c'est très dur. Et c'est dur parce que tous les personnages sont géniaux. Ils prennent vie. Ils ont une vraie vie. Même Mikey, qui est mort à la fin de la première saison. Il y avait un truc génial avec lui. On a aimé l'avoir dans la série. Il était irremplaçable. Mais il devait partir. Ça a été très dur. C'est pas drôle. Nous sommes maintenant en saison 3 des Sopranos. Et Nancy Marchand, qui interprète le rôle de Livia, et qui était auparavant Miss Pynchon, l'éditrice du journal dans Lou Grant, décède d'un cancer. Livia disparaît donc, après le premier épisode où elle apparaît via une représentation truquée pas très convaincante. Pour Tony Soprano, cela change tout. Son sentiment de culpabilité disparaît, et avec lui, sa conscience. Tony, au fil des saisons suivantes, deviendra plus violent, plus intransigeant. On ne pourra jamais s'attacher trop longtemps au gangster mélancolique, car ses brusques accès de violence ressurgissent très régulièrement. Le docteur Melfi va être victime de ce même type de violence qu'elle entend à travers son patient. Elle va se faire violer dans son parking souterrain. Lorraine Bracco a été nominée pour un Emmy Award pour cet épisode, où elle tournait la scène en grande partie, elle-même, jusqu'à se faire une méchante blessure au bras qui l'a forcée à se faire opérer. Et c'est dans la salle d'attente du docteur Melfi que Tony va rencontrer Gloria et tombera amoureux d'elle. Sauf que Gloria se révélera être aussi agressive que l'était la mère de Tony Soprano, allant jusqu'à frapper le gangster et le menacer de tout raconter à sa femme. Et puis arrive un des meilleurs épisodes de la série avec Collège, Pine Barrens, du nom de la région reculée du New Jersey du Sud, où Polly et Christopher se retrouvent perdus, blessés, à pied dans la neige et dans le froid. Ce qui n'était d'ailleurs pas trop prévu dans le script parce qu'il avait neigé entre les repérages et le tournage. C'est Steve Buscemi qui a réalisé cet épisode absolument magistral. Carmela, elle, pense sérieusement à divorcer et elle craint d'avoir un cancer, mais son choix sera tout autre. Elle admet être celle qui fait tenir ensemble tous les membres de sa famille. Elle va donc assumer ce rôle. Son fils, Anthony, va devoir intégrer une école militaire, mais il est saisi d'une crise de panique, exactement comme papa. Enfin, Jackie Jr., l'autre parrain de la mafia, meurt. Et à son enterrement, Oncle Jr. va pousser la chansonnette. Core, core in grado. Et je vous confirme que c'est réellement Dominique Chianis qui chante là, parce qu'il nous a déjà chanté de nombreuses chansons plusieurs fois alors que nous dînions ensemble. Initialement, il y avait 8 à 9 jours de tournage par épisode, et puis ça pouvait monter à 10 jours. Au bout d'un moment, les épisodes demandaient 12 jours de tournage, voire plus, et leur budget dépassa les 10 millions de dollars par épisode. Alors je vais vous raconter la suite de la série, je vais laisser manger quand même un peu. Au centre de la saison 4, il y a un cheval, Pai Oh My, que Tony va particulièrement adorer, au point d'étrangler de ses mains Ralph Chiafretto, avec qui il avait investi dans les chevaux et qui a mis le feu à l'étable où était justement le cheval pour récupérer l'argent de l'assurance. N'est pas gentil. Oncle Junior doit passer en jugement, mais il va profiter d'une chute pour simuler et apparaître comme étant mentalement déficient et donc ne pas avoir à poursuivre son procès. Christopher, lui, va mal. Il est totalement accro. Grâce à l'aide de toute sa famille, il va rentrer en cure de désintoxication. Et pendant ce temps, c'est Adriana, sa compagne, qui va tomber sous la coupe du FBI et devenir informatrice. Quand la saison se termine, Carmela, fatiguée des infidélités de Tony, le met purement et simplement dehors. La saison 5 voit l'arrivée de Steve Buscemi, non plus derrière la caméra, mais devant, dans le rôle de Tony Bludento, le cousin de Tony Soprano. Un peu à la dérive, après sa sortie de prison, il veut mener une vie honnête. Mais cela va être de courte durée. Il va se retrouver au cœur d'une suite de règlements de compte avec Joe Peps, Angelo Garepe et les frères Leotardo. Adriana signe son arrêt de mort quand elle révèle à Christopher sa situation. Il lui propose de trahir aussi Tony, puis de fuir ensemble, protégés par le FBI. Eh bien voilà, c'est Silvio qui va se charger de la basse besogne. Effondré, Christopher va replonger dans la drogue. Forcé d'éliminer lui-même son cousin, Tony Bludento, Tony veut faire la paix avec Johnny Sachs. Mais le FBI surgit et Tony s'échappe juste à temps.
Pour terminer, pouvez-vous nous donner le sens d'une expression que vous utilisez tout le temps dans la série ?
Forget about it.
Forget about it. Pour nous, les Français, c'est très difficile à saisir.
Forget about it, but it's not really.
Bon, c'est pas simplement oublions tout ça.
What's the origin of that? It's a usual.
Alors c'est un mot d'argot.
Chacun a sa version.
Là, ils se regardent tous un peu là. Non, je sais pas. C'est une bonne question. C'est une expression qu'on entend surtout dans le Nord-Est.
Je crois que c'est New-Yorkais.
Quelqu'un m'a juré avoir rencontré celui qui avait dit ça en premier. Bon, je me souviens plus. C'est récent. Il m'a dit qu'il était le premier à utiliser Forget About It. On lui décernerait le prix Nobel pour ça, si on le retrouvait.
They'd give him a Nobel Prize if they could, you know, remember who he was, because he came up with Forget About It.
But it doesn't. Mais bon, ça veut rien dire.
It means. C'est bon. Forget About It. Are
you kidding? Tu plaisantes?
Ça peut être positif ou négatif.
The world is a jungle, and if you want my advice, Anthony, don't expect happiness. You won't get it. People let you down, and I'm not naming any names. But in the end, you die in your own arms.
You mean alone?
It's all a big nothing. What makes you think you're so special? Woke up the snow,
got yourself a gun. Alors c'est bon, hein? Ça vous a plu? On était en bonne compagnie, n'est-ce pas? Bon, ils sont venus à nous. Ce qui serait bien, c'est qu'on leur renvoie l'appareil, qu'on vienne à eux. Ça vous dit?
Roll it, please.
La semaine prochaine, je vous emmène sur le tournage de la série, dans le New Jersey. On y retrouvera nos amis, James, Eddie, Christopher, d'autres comme Little Stevie, des réalisateurs comme Alan Coogler, des scénaristes comme Terrence Winter et encore David Chase. Et puis on ira aussi à Deauville, mais ça vous verrez pourquoi. On explorera donc encore plus la série qui a changé la face des séries jusque dans sa dernière saison, jusqu'en 2013, l'année où James nous a quittés. Tout cela, ça sera dans le prochain Previously. Allez, préparez vos bagages, hein. Comme les séries, c'est du sérieux, si vous ne savez pas quoi regarder ou si vous voulez découvrir la pépite à ne pas rater, une seule option, le podcast Toudoum de la rédaction de Télé Loisirs et qui, comme son nom l'indique, Toudoum fait le point sur ce qu'il faut absolument voir chaque semaine sur la plateforme Netflix. Allez-y, Toudoum, c'est un guide indispensable. Ce podcast est disponible sur Audio Now, Deezer, Spotify, Apple Podcasts et toutes les plateformes de podcasts.